Alors, comment il va, monsieur Libéra? Je vois que vous avez de la visite.
Dites-moi, vous êtes sûr que je dois rester alité là pendant plusieurs jours?
Non, mais écoutez, je connais mon métier.
Hein. Ah non, mais je n'ai pas dit du contraire.
Vous avez besoin de son repos, ok? Et pour ça, je vous ai prescrit des antidépresseurs et des somnifères.
Bah, j'ai jamais eu besoin de ça, moi.
Ouh, on croit toujours que c'est pour les autres, et puis à un moment...
Bon, je peux vous parler 5 minutes?
Non, écoutez, là, j'ai vraiment pas le temps, vous n'êtes pas le seul patient ici. Pour ça, il y a les infirmières. Alors, faites ce que je vous dis, c'est rien.
Putain, mais quel con, ce mec! T'es vraiment coincé ici, là!
Ouais, mais tu sais quoi? J'y toucherai jamais à ces médocs.
Bah, t'as bien raison. Dis, JB.
Ouais.
Tu vas bien continuer à lire ton journal, là?
Ah, dis donc, et tu commences à y prendre goût?
Bah ouais.
Bon, alors, ouvre tes oreilles, petit homme, et écoute. 8 mois que les restrictions sévissent. Plus les semaines passent, plus les mois passent. Et plus la notion de liberté prend du sens pour moi.
La liberté, c'est de pouvoir passer du temps avec les gens qu'on aime, de pouvoir échanger, de pouvoir les prendre dans les bras. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. La Cornouaille, ça me paraît tellement irréel. Mes anciens potes musiciens, Katie, vais-je les revoir un jour? En attendant, ma vie quotidienne continue à Paris. Aujourd'hui, j'ai reçu la décision du juge aux affaires familiales.
Par ces motifs, Elisabeth Zina, vice-présidente aux affaires familiales, rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, fixe la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, dit que sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficiera d'un droit de visite.
Bénéficier, un terme qu'on emploie quand on peut jouir de quelque chose dont on n'aurait pas le droit par défaut. Une sorte de privilège, en somme, si l'on en croit l'étymologie. Comme si je n'avais pas le droit, par défaut, d'élever mon fils tous les jours. J'ai donné naissance à un enfant, et la justice réduit mon rôle de père à une pension alimentaire, quasiment. Cet enfant, je n'aurais quasiment pas le droit de l'élever. Si petit. Si petit, mais il prend déjà une place énorme dans mon cœur. On a parlé des pères parce que quelques-uns sont montés sur des grues pour crier leur désespoir. La justice leur a pris ce qu'ils ont de plus cher au monde. Les médias en ont beaucoup parlé pendant un temps et ces pères sont retournés dans l'oubli. Qui se soucie d'eux aujourd'hui? Maintenant, je suis dans leur cas. Est-ce que je vais devoir aussi monter sur une grue et faire la grève de la faim pour faire valoir mes droits? Encore une fois, pensez à autre chose. Lâchez prise. Vivre. Les juges décident, je ne peux pas contrôler ce qui ne dépend pas de moi. En revanche, je peux gérer ma liberté. Celle de voyager, celle de rencontrer et de partager. Enfin, là encore, c'est relatif. On est libre de bouger en France, mais pas en Angleterre, avec les restrictions.
Eurostar, bonjour. En raison des restrictions sanitaires, aucun train ne circule jusqu'à nouvel ordre. Pour plus d'informations, merci de consulter notre site internet.
Bon, demain, je me lèverai tôt. Je prendrai le train pour la Bretagne et j'irai me promener sur les falaises du Pénestin. Juste pour quelques heures. Je reviendrai le soir même. Je me couche en pensant à ce moment privilégié que je vais m'octroyer demain, mais je n'arrive pas à m'endormir. Mon fils me manque. Je ne rentre même plus dans sa chambre lorsqu'il est chez sa mère, c'est-à-dire la plupart du temps. Le silence qui y règne est une torture pour moi. Je ne suis pas né à la bonne époque. On dit que la place des pères évolue, leurs droits sont mieux respectés. Bon, je veux bien le croire, mais dans le bureau des juges, en tout cas, où tout se décide, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas un mois, lors de la dernière audience, la juge m'a dit « Il va falloir vous faire à l'idée que vous n'aurez jamais la garde de vos enfants. » Mais comment a-t-elle pu dire ça, avant même d'avoir lu les pièces que je lui ai apportées? Mon avocate a beau être scandalisée, ça n'y change rien. Mon fils me manque. Je veux l'élever, je veux rire avec lui, je veux l'endormir, en lui racontant une histoire que j'écrirai spécialement pour lui. Je veux lui faire un câlin avant de fermer la lumière, le prendre dans mes bras, le bercer doucement et sentir sa petite tête chaude qui tombe de fatigue sur mon épaule, gagnée par le sommeil. Le sommeil. Le sommeil. Le sommeil. Le sommeil.
Le sommeil. Le sommeil. Le sommeil. Le sommeil. Le sommeil.
Vous voilà. Les passants ne marquaient Joe Street. Et ses réverbères. Je descends la rue. J'approche. J'approche. J'y suis. Revivre le meilleur moment de ma vie. Encore ce rêve. Je le comprends toujours pas, mais il est de plus en plus rassurant. Par contre, en bas de la rue, ça m'échappe encore. Encore et à chaque fois. Mais bon Dieu, qu'est-ce qui peut bien se trouver en bas de cette rue pour que je brûle d'envie d'y accéder ? Je me lève, je me lave, je mange, je prends le train. Et j'arrive à Pénestin. Quelques heures, je disais. Quelques heures pour regarder la mer, du haut des falaises. Là-bas, au-delà de l'horizon, se trouve la Cornouaille, là où est restée une partie de mon enfance. Je tends la main comme pour toucher cet horizon. Je vais le toucher du bout du doigt. Mais non, la réalité me rattrape. Je dois prendre le train dans peu de temps pour rentrer chez moi. Et c'est la réalité de mon quotidien, avec ces comédiens qui se croient dans une pièce de théâtre et nous forcent à être spectateurs de leur propre vie.
Salut ma belle, comment tu vas ?
Ouais.
T'es où là ?
Je suis chez le dentiste, j'attends mon tour.
Ah ouais, bah moi je suis dans le train. Je vais voir mon mec.
T'as déjà fini ton taf ?
Ouais, j'ai fini une heure plus tôt aujourd'hui. Non mais franchement, heureusement quoi. Genre, j'allais péter un câble. Le boss, il m'a fait chier grave.
Ah ouais ? Qu'est-ce qu'il a fait encore ?
Le mec, il commence à me dire que je suis pas assez souriante avec les clients, que je prends des pauses trop longues, que je suis toujours sur mon portable, truc classique quoi. Je te jure,
excusez-moi. Ce mec. Excusez-moi, vous pouvez aller téléphoner ailleurs, s'il vous plaît.
Ouais, c'est bon là, c'est bon.
Non, mais je vous demande juste d'aller téléphoner ailleurs, c'est tout. Hein.
C'est qui ?
Non, c'est juste un mec là dans le train.
Ah, encore un gros con.
Eh, le gros con, il a envie de bouquiner tranquille.
Non, mais c'est quoi,
c'est possible, ça ?
Eh oh, toi, t'as qu'à rester chez toi, là, si tu veux bouquiner. Tu vas pas nous empêcher de vivre, en plus.
Déjà, j'aime pas qu'on m'insulte, ok ? Et de deux, c'est toi qui nous empêches de vivre.
Tu niques sa gueule.
Ok ? T'as eu une journée de merde, moi aussi.
Non,
et moi, j'ai envie de me détendre.
Hein, le mec, il se prend pour qui, là ?
Et oh, tu m'écoutes quand je te parle ? Tu sors pour téléphoner ou tu éteins ton portable ?
Ah ouais, ok, vas-y, tu vas faire quoi, toi ?
Je te toucherai pas. Non, concrètement, je te toucherai pas. Je te ferai pas ce plaisir-là.
Gros pas.
Ouais, non, mais en plus, madame, elle se fout de ma gueule.
Non, mais c'est quoi ? Regarde, tu fais chier tout le monde. En fait, c'est toi qui fais chier tout le monde, là. Il y a toi qui gueule dans ce train. Non, mais je te jure, ce genre, c'est un vieux con.
Ouais, ben le vieux con, il supporte pas les poufias dans ton genre, ok ? Alors, pour la dernière fois, tu coupes ton portable et t'apprends à vivre en société.
Ça va. Attends, ma chérie, on arrive à la gare, je te rappelle.
Oui, tu me rappelles, ma belle.
Fin du calvaire, ouais. Je vais plus vous entendre, ça va me faire du bien.
Ah ouais, puis moi, alors, je vais plus voir ta sale gueule. Ça va me soulager, tu veux pas savoir.
Oui, bien sûr.
Casse-toi, bolos.
Oh, mais quel vocabulaire. Tu frises la vulgarité tout en restant dans le grossier.
Connard, va.
Orchidoclaste. Personne bougerait son petit doigt pour me soutenir, hein. Et vous, là, le tondu, le sosie du Dalai Lama ? Même vous, vous restez là sans rien dire.
Ah oui, c'est pas brillant, c'est vrai que...
On demande simplement à pouvoir lire tranquille et on passe pour des chieurs. Vous trouvez pas que c'est pénible ?
Les gens s'énervent facilement.
Et vous gardez le sourire comme ça ?
Bon, vous savez, il vaut mieux ça que de pleurer, mais en gros, hein, regardez, il y a toujours peut-être un petit moyen de... soit de désamorcer un conflit, soit d'essayer de pas être trop affecté. Bah écoutez, si vous voulez, là, au bout du quai, là, allez, Je vous offre un thé. On peut parler, j'ai un moment entre deux trains.
Bah, écoutez, moi j'ai pas de contrainte de temps. Allez, ça marche. Il y a un petit salon de thé là, un peu plus loin. Vous m'êtes plutôt sympathique, hein, finalement.
Au départ, je suis en toute confiance avec cet homme étrange, habillé d'une robe rouge et ocre, le sourire aux lèvres, d'un calme olympien. Ce monsieur dégage une grande sérénité, une bienveillance qui tranche net avec l'agressivité de la femme au téléphone. Après quelques pas et quelques mots, nous nous retrouvons assis, face à face, autour d'une tasse de thé.
Vous aimez le thé ?
Oui !
Aussi ?
Bon. J'ai vécu à Darjeeling, c'est l'endroit, c'est la capitale du thé dans l'Himalaya.
La capitale du thé ? Ah oui, vous êtes allé en Himalaya ?
Eh, j'ai vécu des années en Himalaya, mon cher.
D'accord.
Plus qu'en France.
Plus qu'en France.
Ouais, presque 50 ans. Je suis un petit vieux. Hein.
Mais vous ne les faites pas.
J'en ai vu des choses.
Et l'autre pouf, là, vous l'avez vu ? Avec son portable, celle qui étale sa vie devant tout le monde. Moi, j'étais juste à côté d'elle, ça m'énerve au plus haut point. Je ne supporte pas. Comment vous faites pour rester aussi cool ? On vous agresse des fois ?
Oui, bien sûr, mais si vous voulez. Bon, ça peut être un peu déplaisant. Forcément, c'est plus déplaisant quand c'est vous-même qui êtes la cible. Ceci dit... Oui, je sais bien. Et pourquoi ? Parce que c'est l'ego qui est visé. Il y a un très bel exemple. Hein. Si vous êtes dans une barque sur un petit étang, à faire la sieste un dimanche après-midi, tout à coup, il y a bam ! Vous avez une autre barque qui vous rentre dedans. Hein. Qu'est-ce que c'est que cet imbécile qui est en train de faire la sieste ? Et vous apercevez que votre barque est vide, elle dérivait. Et vous vous éclatez de rire. Pourquoi ? Parce que dans le premier cas, vous avez pensé que vous êtes visé. Vous, deuxième cas, c'est un accident de parcours. En fait, les gens, c'est un peu comme les barques qui dérivent. Ils dérivent parce que leur esprit est complètement out of control, comme on dit.
Oui, mais là, ce n'est pas le cas. Oui. C'est volontaire. Ce n'est pas une barque comme
oui,
ça qui dérive au hasard. Oui, c'est
volontaire, mais c'est le résultat de mauvaises tendances accumulées. Si vous voulez, c'est aussi des victimes. Vous donnez
moi la victime, parce que je n'ai pas pu lire de tout le trajet.
Je ne dis pas que c'est les autres les victimes, mais vous le coupable, bien sûr. Il y a un autre exemple qu'on donne dans le bouddhisme. Si quelqu'un vous frappe avec un bâton, vous vous mettez en colère contre la personne, n'est-ce pas ? Pas contre le bâton. Mais si on y songe bien, la personne, elle est comme un bâton sous l'empire de son énervement, de sa colère, de son propre malaise, de son ignorance, de sa confusion mentale, du fait qu'il n'avait pas assez ses fins de mois, qu'il râle contre le système, la dame, elle râle contre je ne sais pas qui, peut-être que 3 jours avant, je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin bon, toutes sortes de facteurs et de conditions qui font que ces gens sont acariâtres, ils ne sont pas plaisants, etc., etc. Donc ils sont aussi manipulés. Donc le vrai problème, ce n'est pas que le monde entier se dresse en ennemi, parce qu'on peut très bien voir ça comme ça, c'est que nous sommes tous, à des degrés divers, le jouet de, on pourrait appeler ça, nos perturbations mentales, nos poisons mentaux, c'est-à-dire on est le jouet de l'animosité, on est le jouet de l'obsession, on est le jouet de la jalousie, on est le jouet de l'orgueil. Et l'idée, c'est peu à peu de se libérer de ça, de sorte qu'on voit ça comme une pièce de théâtre et que soi-même, on n'est pas affecté par ça, on reste libre de ces choses-là. C'est plus vite dit que je l'ai fait.
Ben oui.
Néanmoins, ça permet aussi de se dire, ben finalement, tout ça, c'est des gens qui souffrent d'une façon ou d'une autre, qui se conduisent de façon maladroite, mais il n'y en a aucun d'entre eux qui se réveille le matin en se disant, puisse-je souffrir toute la journée, si possible, toute ma vie. Simplement, ils tournent le dos au bonheur et se précipitent vers les causes de la souffrance.
Oui, mais en attendant, moi, je n'ai pas pu lire.
Oui, d'accord.
Hein, vous faites quoi, vous ? Concrètement, là, vous faites quoi ? Si vous aviez été à ma place ?
D'abord, change de place, si possible.
Il n'y avait pas de place.
Alors, il y a des choses.
Vous saviez qu'il n'y avait pas de place.
Bon,
le train est bondé.
D'accord. Eh bien, vous en profitez pour cultiver la patience. S'il n'y a rien d'autre à faire.
Oui, mais c'est
la patience,
qu'on
la
cultive,
c'est la reine des vertus.
C'est la reine des vertus, mais c'est souvent qu'on la cultive, cette patience, alors. Hein. Parce que le nombre de fois où on est dérangé, le portable, c'est une calamité.
Oui, je sais bien, mais d'un autre côté. Et des fois, on peut désarmer comme ça, un peu l'agressivité des gens.
Comment ?
En disant, ma petite dame, est-ce que je peux vous aider ? Est-ce que ça ne va pas en ce moment ? Alors, ça les met en colère, généralement.
Oui.
Il ne faut pas dire ça.
Oui.
Mais bon, je ne sais pas, est-ce que... Bah, oui, ce n'est pas évident. Alors, à ce moment-là, soit on peut essayer de changer un peu la situation, soit, quand on est coincé dans une situation, quelle est l'autre solution ? C'est de changer notre perception. Parce que finalement, du matin au soir, c'est notre esprit qui traduit les circonstances extérieures en bien-être ou en mal-être. On peut être malheureux comme tout dans un petit paradis. Regardez ça, ce type-là, c'est un acteur célèbre, il est beau, il est riche, il a une île toute à lui, il a tout ce qu'il faut. Et on vient d'apprendre qu'il est déprimé, qu'il bouffe des somnifères à l'heure d'aujourd'hui. Mais moi, si j'avais tout ça, je serais très heureux. Qu'est-ce qu'il a, ce type-là ? En fait, on ne se rend pas compte. Finalement, notre esprit peut éclipser les circonstances extérieures. Moi, j'ai vu des personnes, quand je travaillais dans le Vieux Delhi, à un moment donné, j'imprimais des textes tibétains dans le Vieux Delhi. C'était des chauffeurs de rickshaw, c'est des tricycles à trois roues. Ils n'avaient presque rien. Et le soir, ils brûlaient des cartons dans la rue, ils rigolaient comme des fous. Alors, finalement, il ne faut pas idéaliser le pauvre heureux en disant que ce n'est pas grave, qu'ils peuvent rester pauvres parce qu'ils sont finalement joyeux. Bien sûr que non, il faut les aider pour la santé, pour remédier à la précarité, etc. Mais le fait est qu'ils avaient une certaine insouciance et que donc, on peut être, garder sa joie de vivre et sa force d'âme, même dans les circonstances difficiles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas améliorer la situation, faire en sorte que les gens soient plus polis, plus civilisés.
Ah, quand même.
Bien sûr, ça serait mieux. Ouais. Mais si on n'a pas le choix et qu'on est coincé dans une situation idiote, un peu comme la vôtre, au moins, on peut faire en sorte qu'on ne traduise pas ça en une contrariété permanente et qu'on se dise, ben voilà, c'est un peu le qu'on appelle le samsara, c'est-à-dire c'est le monde qui est conditionné par la confusion, par l'ignorance, par l'égarement. Et puis, je mets mon esprit loin de tout ça et au moins, je garde ma sérénité.
Et votre sourire, là, ça vous rajeunit, hein ?
Ah, ben voilà, c'est ça qu'on sème.
Et vous voyez, en plus, vous me faites sourire.
Tout à l'heure,
j'étais vraiment en colère et vous me faites sourire maintenant.
Je vais vous dire, à propos de conflits, il m'est arrivé une fois d'aller dans un laboratoire scientifique en Californie qui étudiait justement les conflits.
Oui.
Et on m'a demandé, est-ce que vous feriez une situation de conflit avec deux personnes ? Une personne, un scientifique extrêmement affable, etc. Et avoir une conversation sur un sujet difficile. Et donc, ce collègue à eux, qui était professeur de physique, a pris le Nobel de physique d'ailleurs, on savait qu'il était extrêmement sympathique. Donc, on dit, voilà, on va vous poser la question, pourquoi est-ce qu'un occidental comme vous deviendrait moine bouddhiste, c'est pas complètement dingue de lâcher une carrière, arrêter de vous aider scientifique au départ. Il pourrait y avoir cause à confrontation. Et puis après, on vous mettra dans la même situation avec quelqu'un dont on sait que c'est la personne la plus difficile du campus. Mais ça, on ne va pas lui dire. Et on va faire une confrontation à nouveau. Donc la première personne de ce professeur, on a commencé à parler, une conversation extrêmement sympathique. On avait tous des électrodes partout, des capteurs pour la sudation, le pouls, etc., etc. Et tout de suite, il y avait une harmonie entre nos physiologies. C'est-à-dire qu'on a parlé, on avait des points de vue différents, mais très courtoisement. Et à la fin, il a dit, c'est dommage, on aurait bien continué la conversation. Après, donc, vient la deuxième personne, avec qui on n'est pas dit que c'était la personne la plus difficile du campus. Je dis, vous savez, on est censé faire une confrontation. Oh, ça ne sera pas difficile avec moi, vous allez voir. Alors, il me rentre dans le show tout de suite.
Ouais.
Et puis moi, je lui réponds, j'explique ça avec le sourire. Et il mesurait la physiologie. Au départ, il était tout feu, tout flamme, donc la physiologie était... au top de son excitation, et puis il s'est calmé, et à la fin il a dit, écoutez, je ne peux pas me discuter avec ce type-là, il sourit tout le temps, puis il y a quelque chose avec lui, je n'arrive pas à me disputer. Voilà. Donc, CQFD, il faut être deux pour se disputer.
C'est pas facile, je vais essayer. J'ai lu une fois dans un livre sur le bouddhisme que même envers les gens qui nous font du mal, il fallait éprouver de l'altruisme.
Oui, alors, je vais vous expliquer comment. Quelqu'un m'a dit un jour, un grand penseur français que je ne nommerai pas, c'est complètement stupide ce type de compassion. Enfin, la compassion pour les Chinois qui ont torturé les Tibétains, etc.
Oui, ben oui.
Oui, il faut comprendre. La haine, qui est l'alternative, ce n'est pas la solution. Parce que la haine, comme disait le Bouddha, quand la haine répond à la haine ne cessera jamais. Ou comme disait Gandhi, œil pour œil, dent pour dent, le monde sera bientôt aveugle et édenté. Donc la loi du talion, ça ne marche pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Avoir de la bienveillance pour quelqu'un qui vous fait du mal. Ça ne veut pas dire, oh, le pauvre vieux, allez, on va lui payer des vacances aux Bahamas, ça ira mieux, c'est pas grave, il a tué 5 personnes, mais finalement, c'est pas un mauvais type. Il a eu des problèmes dans son enfance. L'altruisme, qu'est-ce que ça vise à faire ? À essayer d'améliorer davantage de bien-être dans la société, chez la personne. La compassion, c'est de remédier à la souffrance et à ses causes. Quelqu'un qui est à une nuisance dans la société,
oui.
C'est visiblement une cause de souffrance pour les autres. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut se dire, voilà, si j'avais ce type devant moi, je lui fracasse le crâne, au moins il ne fera plus de mal à personne.
Oui.
Mais on peut souhaiter, ne serait-ce qu'avoir une attitude, c'est ça là, une attitude.
Oui.
Ça serait quand même bien que ce type-là, finalement, il change. Bachar al-Assad, s'il pouvait, puisse la haine, l'animosité, l'ignorance, l'indifférence, la cruauté, l'avidité de cette personne, si on pouvait y remédier, ça serait bien. Est-ce qu'on pourrait, dans ce pays-là, sur le long terme, avoir un système d'éducation tel que de telles personnes n'émergent pas de ce système, comme dans les pays totalitaires. Oui. Si vous voulez, c'est une démarche comme un médecin, un thérapeute qui voit un fou furieux, ben, il le contrôle avec une camisole si nécessaire, mais après, il ne vient pas lui taper dessus à coup de bâton. Il va dire, est-ce que je peux le soigner ou pas ? Au pire, je le neutralise et j'essaie de le soigner. Donc, c'est l'idée de remédier au mal, parce que c'est aussi une cause de souffrance, cette personne, pour lui-même, pour les autres. Donc, si vous voulez, c'est plutôt une posture intérieure. La compassion, c'est de remédier aux causes de la souffrance, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit. C'est différent d'un jugement moral. Et c'est-à-dire que ça n'excuse rien. Blâme existe, mais on essaie de voir de façon constructive, est-ce qu'on peut remédier à ça ?
Oui, mais quand on est victime d'une personne qui nous veut du mal, comment peut-on se mettre dans une posture qui prouve de la compassion ? Je donne un exemple très précis. La mère de mon fils veut exclure le père de la vie de mon fils. Je suis lié à mon fils, je suis lié à elle. Comment puis-je me défendre tout en éprouvant de la compassion pour elle ?
Oui, alors la compassion et l'altruisme n'est en aucune façon de la faiblesse. On peut être droit dans ses bottes, extrêmement ferme, décidé, mais à l'intérieur, ne pas avoir de haine. Le but, c'est de trouver la solution pour la personne qui est la plus innocente, votre fils, sans pour autant faire du mal à qui ce soit, ni à vous-même, en étant lucide et avec une bienveillance dans le fond, même si vous prenez un aspect un peu sévère.
Oui.
Il y a beaucoup de façons d'être ferme dans un conflit. Mais pas lâcher par faiblesse pour que votre fils en pâtirait parce que vous ne voulez pas vous disputer. Et si ça ne marche pas, allez.
Si ça ne marche pas, justement.
Au moyen légal, mais sans haine. L'idée, c'est que tout le long du chemin, on explore une par une les différentes possibilités en montant en grade, je dirais, d'intervention à mesure que ça ne marche pas. Mais toujours avec l'idée de trouver la meilleure solution possible pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y ait moins de souffrance possible. Il y aura toujours un peu de souffrance, parce que c'est une situation difficile, mais au moins ne pas en rajouter. Et l'animosité en rajoute forcément.
C'est sûr, oui, c'est sûr.
Hein ?
Vous confirmez qu'il faut rester ferme, ne pas se laisser faire.
Moi, je sais, j'ai eu l'occasion de conseiller le Dalai Lama, il dit la non-violence, c'est pas du tout d'être comme un paillasson. On peut être extrêmement ferme, mais sans animosité.
D'accord.
C'est ça l'essentiel.
On vous agresse dans la rue, vous faites quoi ?
Attendez, si c'est physique, j'essaie quand même de me protéger.
D'accord.
Je ne joue pas en courant, je cours, mais comme je ne cours pas très vite... si vous voulez, en tout cas, ce que je ne vais pas faire, c'est sortir un pistolet et descendre le mec, quoi.
Oui, ben oui.
Évidemment, on lui a dit, d'ailleurs. Moi, j'étais présent. Oui, mais s'il y a quelqu'un rentre avec un pistolet qui veut descendre tout le monde et que vous en avez un, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez le laisser faire par non-violence ? Alors, il a réfléchi un peu, il a dit, écoutez, je tirerai dans les jambes, et puis quand il tombe par terre, je viendrai et je lui caresserai la tête.
C'est ça à quoi j'ai pensé, c'est marrant.
Depuis le jour de notre naissance jusqu'au jour de notre mort, on a besoin des autres, on a besoin de bienveillance, d'en recevoir et d'en donner. Un nouveau-né ne survivrait pas, et une personne âgée non plus.
Alors justement, la compassion, la bienveillance, l'altruisme, les bisounours.
Ouais.
On vous a fait le coup aussi.
Oui, bien sûr, mais c'est facile.
Mon patron, il subit une pression parce qu'il faut toujours faire plus de chiffres. Et cette pression, il a fait descendre sur nous, les employés. Un jour, je vais le voir et je lui ai dit, tu sais, ça serait pas mal quand même que tu fasses preuve d'un peu de bienveillance envers nous parce qu'il y a des gens qui prennent des arrêts maladie parce qu'ils ne veulent plus venir travailler. Et il me regarde et il me dit, mais... la bienveillance, mais tu te crois vraiment au pays des bisounours, là
Ouais, justement, c'est le mauvais pari. Nombreuses études ont montré qu'une entreprise où il fait bon travailler, systématiquement, est plus florissante. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles vont toutes faire fortune, hein, mais ça ne marche plus. En gros, statistiquement, c'est clair. Qu'est-ce qui fait qu'il fait bon travailler quelque part? C'est pas simplement le salaire, c'est pas simplement le prestige de la boîte, c'est très simple, la qualité des relations humaines. Et qu'est-ce qui fait la qualité des relations humaines? C'est la confiance, c'est la coopération, c'est l'ouverture, c'est pas qu'il y ait trop de verticalité absolument infranchissable. C'est que les gens ont de la marge de manœuvre. Le burn-out dans le milieu du travail, c'est d'être coincé dans une situation où notre créativité ne peut pas s'exprimer. On a une très faible marge de manœuvre qu'on sait entre un supérieur et des gens qui dépendent de nous. Bon, à la fin, ça ne marche pas et on se blâme soi-même et donc il y a une sorte de burn-out. Il faut davantage donc, d'ouverture. Par exemple, en États-Unis, ils donnent des bonus tout le temps.
Oui.
Et l'idée, c'est vraiment, on donne un bonus collectif. Vous avez bien travaillé. Dans un an, il y en a qui ont travaillé plus, un peu moins que d'autres, qui sont plus capables, mais ils ont tous fait ensemble. Donc, ils se sont valorisés en tant qu'équipe. Mm-hmm. Moi, j'ai connu un grand patron qui m'a dit un jour, moi, ma priorité, c'est que les gens se sentent bien dans ma boîte.
C'est qui? C'est qui ce grand patron? Ah, des noms.
C'est il y a longtemps. Non, ben, je ne veux pas si je cite son nom. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, il disait, et de fait, depuis que j'ai cette attitude-là, ça marche beaucoup mieux. C'est normal. Les gens sont plus contents. Non, mais ça, en tout cas, ce qui est vraiment tout à fait vérifié, c'est qu'un lieu où fait bon travailler, ça fonctionne mieux, et que le facteur principal, c'est la qualité des relations humaines. Ça, c'est très important.
Mais c'est
et la qualité des relations humaines, c'est lié à la bienveillance. C'est pas lié à encore une fois, à des avantages en nature.
Bien sûr, mais c'est simple à comprendre. Pourquoi c'est pas appliqué?
Parce qu'ils s'imaginent qu'en serrant la vis davantage, en faisant produire plus, en sortant des heures de travail sans trop les payer, en exigeant plus des gens. Moi, j'ai connu quelqu'un qui avait travaillé dans une grande boîte d'informatique aux États-Unis, là, chez Microsoft. Il disait, si on recevait un email à 11h30 du soir le samedi, il s'attendait à ce qu'on réponde. On ne peut pas s'épanouir dans un système comme ça.
Vous qui êtes moine bouddhiste,
oui.
Comment vous vous y prenez pour changer le monde?
Déjà, il faut changer soi-même parce que, vous savez, c'est comme un beau parterre de fleurs.
Oui.
Si vous dites, bon, toutes les fleurs sont fanées, mais si j'en mets beaucoup, ça va l'air bien.
Oui.
En fait, non, il faut que chaque fleur soit fraîche. Donc, une société, ça commence par des gens qui vont mieux, et ils ont un bon équilibre émotionnel.
Oui.
Et s'ils sont mieux dans leur peau, ils seront moins vulnérables et moins agressifs, forcément, parce qu'on a tendance à se protéger si on est mal dans sa peau. Du coup, on commence à regarder vers l'extérieur parce qu'on est moins exacerbé par le sentiment de l'importance de soi ou de moi du matin au soir. On dit, bon, ben maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour la société? Donc, tout ça, c'est un processus. Il y a des gens qui naissent un peu plus heureux que d'autres, plus insouciants, plus solides, plus résilients, plus souriants, plus bienfaisants, mais d'autres moins. Et par contre, chacun a des qualités, des choses qui déjà sont bien épanouies, d'autres qui pourraient être améliorées ou des défauts qu'on pourrait dissiper. Alors, est-ce qu'on peut changer? On peut se dire, oui, ben, c'est tellement ancré dans la pierre, notre génétique, etc. Il n'y a rien à changer, donc il vaut mieux relaxer à ce moment-là, prendre un bon verre de jus de pomme ou ce que vous voulez.
Ouais. Tiens, un jus de pomme, moi j'en prendrais bien un. Vous voulez autre chose?
Allez-y, alors un jus de pomme aussi, parfait.
Allez, s'il vous plaît, deux jus de pomme. Merci beaucoup.
Ouais, un garçon très bienveillant qui va nous amener deux jus de pomme. Bon, alors, en gros, si on peut changer, ça vaut la peine de le faire. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de transformation de notre esprit. Comment est-ce qu'on change? Alors, j'imagine que quand vous étiez jeune, vous avez appris à lire et à écrire.
Oui.
Bon. Vous avez quelque chose que vous aimez bien faire et que vous avez
appris.
Ah oui,
la musique.
Ben voilà, la musique. Alors, la musique. Bon, quel instrument jouez-vous?
De la batterie.
Eh ben, la batterie. Le premier jour, vous êtes arrivé dans votre batterie, vous avez dit, c'est chouette, j'aimerais vraiment bien jouer, mais bon, c'était pas brillant, n'est-ce pas? Dans votre esprit, vous pensiez à des très grands batteurs, mais dans les faits, ça marchait pas comme ça, n'est-ce pas?
Non.
Et vous n'êtes pas dit, bon, ben, c'est pas compliqué, moi, je vais pas me rendre la vie difficile, je vais faire ça tous les samedis, 5 minutes, tous les samedis, et puis au bout de certain temps, vous allez voir ce que vous allez voir, ça va être formidable. Non, c'est pas comme ça, n'est-ce pas?
Ben oui.
Vous avez passé beaucoup d'heures.
Beaucoup d'heures.
Au début, c'était pas forcément rigolo. Néanmoins, il y avait un enthousiasme. Pourquoi? Parce que vous voyez que vous alliez quelque part.
Ouais.
Vous imaginez le résultat qui est d'avoir plaisir à faire de la batterie de plus en plus. Donc, c'est ce qu'on appelle un entraînement. C'est simple.
Oui.
C'est au cœur de toutes nos vies. Sauf que, souvent dans nos civilisations, bizarrement, on imagine que des qualités humaines fondamentales comme justement l'altruisme, comme l'attention, la faculté de faire attention aux choses, la résilience, l'équilibre intérieur, l'équilibre émotionnel, la paix intérieure, pourquoi pas, c'est donné à un certain degré, puis ça ne bouge plus. Donc ce qu'il faut, c'est de même qu'on apprend à lire, à écrire ou à jouer aux échecs, il faut cultiver ces qualités. Alors, on n'a pas tous la même marge de manœuvre. On ne peut pas se devenir des champions olympiques de l'altruisme. Moi, je ne peux pas sauter de 2,40 m en hauteur. C'est exclu. Hein, surtout à 76 ans. Mais même avant, je n'étais pas bon le saut en hauteur. Donc, il y a des limites. Mais il y a une marge de manœuvre considérable.
Oui.
Et ça, ça se fait avec l'entraînement. Alors, l'entraînement, il y a l'entraînement physique. Vous entraînez des biceps. Vous faites des mouvements avec vos bras pendant des mois et des mois avec les haltères. Vous êtes sûr que vos biceps vont grossir.
Oui.
Bon, là, l'exemple est un peu matérialiste. N'empêche que, si jour après jour, de même qu'on fait 20 minutes d'exercice physique 5 fois par semaine, on sait que c'est bon pour la santé, etc., contre le vieillissement, contre la dépression, oui. Il y a plein d'études.
Oui.
Et si, par hasard, 10, 15, 20 minutes par jour d'entraîner son esprit à l'attention, à la présence attentive, à l'équilibre émotionnel, à la bienveillance, eh bien, au bout d'un mois, deux mois, trois mois, ça fait qu'on était plus attentif, un meilleur équilibre, un comportement prosocial magnifié, ce serait pas mal, n'est-ce pas?
Oui, mais...
Ça s'appelle la méditation.
Ça s'appelle la méditation. Et vous savez, j'ai essayé, donc j'ai pris de l'encens, j'ai joint les mains... Pourquoi vous rigolez? J'ai joint les mains comme ça.
Et vous avez trouvé un mangué au
Et puis j'ai dit des paroles en chinois que je ne comprenais pas. Franchement, ça m'a rien fait.
Oui, j'imagine.
Pardon, hein, ça m'a rien fait.
Non, mais ça encore, là, c'était prévu d'avance. Mais il y a d'autres gens, ben parce que c'est pas comme ça que ça marche.
Ah bon?
Ben oui, s'asseoir.
Alors, c'est quoi la méditation? Dites-moi. Alors, oui. Vous pouvez me. Allez, ben, dites-moi.
Allez,
on va faire un petit cours pratique.
Pour la démystifier. Le but de l'opération, c'est de transformer son esprit. Ok.
Oui.
Donc pour ça, faire le vide. D'abord, ça marche pas parce que les pensées, vous n'allez pas les arrêter. Quand elles sont là, qu'est-ce que vous leur dites? Ah ben, vous n'auriez pas dû être là, ça ne marche pas. Bon, ce n'est pas la peine.
Ouais, je ne leur dis rien, c'est juste que elles me traversent l'esprit et j'ai fini par
bloquer les pensées, ça ne marche pas. Par contre, les gens vous disent, ça serait quand même bien, moi je m'assieds, j'ai l'impression que j'ai encore plus de pensées que d'habitude.
Hmm.
Ça, c'est classique. Ce n'est pas des gens non plus, c'est qu'ils se rendent compte de l'étendue de la catastrophe. L'idée, ce n'est pas de les bloquer, mais de ne pas tomber dans des automatismes mentaux. Par exemple, pourquoi est-ce que cette dame m'a fait ça dans le train, etc. Et alors, vous êtes là toute la journée, enfin quand même, elle aurait pas pu faire ça, et puis j'aurais peut-être dû lui dire ça, et puis, bon, qu'est-ce que ça fait? Réaction en chaîne.
Oui.
Au lieu, ça dure 5 minutes, ou enfin, déjà une heure, toute la journée, de mauvaise humeur. Dès que vous y repensez, crac, si on appuie sur un bouton, ça repart.
Oui.
Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un automatisme mental.
Oui.
Donc, la méditation, en tout cas, dans ce cas-là, c'est ne pas bloquer les pensées, mais ne pas non plus les laisser... proliférer,
envahir
votre esprit et vous en donner l'esclave.
Alors comment on fait?
Il faut trouver un espace, disons, qu'on peut appeler présence éveillée, présence ouverte. Vous avez une pensée d'anxiété, de jalousie, de ressentiment, d'énervement, etc. Pourquoi m'a fait ça, ceci? Bon, elle grandit, c'est comme ça envahit votre esprit. Mais vous pouvez la regarder. L'esprit a la faculté de regarder tout ça. Un peu comme on regarde un feu qui brûle, un feu de bois. Au lieu de rajouter des bûches, vous le regardez simplement. Finalement, il va brûler un certain temps, mais il va s'amenuiser jusqu'à s'arrêter.
Oui.
Il faut c'est déjà pas rajouter des bûches. Donc si vous voulez, vous créez un espace... de présence attentive qui regarde, pleine conscience, appelez ça comme vous voulez. Et ce qui se passe, c'est que ça va perdre de sa présence, de sa puissance, de son intensité et de son impact sur nous, c'est-à-dire l'impact à nous troubler. Et finalement, il y aura, vous voudrez un état de pleine conscience tranquille. Donc vous n'avez pas supprimé, essayé de réprimer quelque chose dans un coin comme le bombardement. Vous n'avez pas pété les plombs.
Oui.
Vous avez intelligemment laissé cette chose. Si on cultive ça par le temps, à un moment donné, c'est de plus en plus rapide. C'est un peu comme un oiseau qui traverse le ciel.
Oui.
Si on sait l'avenir, vous l'avez laissé passer. C'est une façon. mais vous parliez de la bienveillance. Alors là, c'est un peu différent, parce que la première, c'est la façon de gérer les pensées. Par contre, cultiver une qualité, c'est encore autre chose. Enfin, la bienveillance, on en parle, les bisounours. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous engendrez de la bienveillance, par exemple, pour votre fils. Vous l'aimez beaucoup.
Ah oui.
Ben voilà. Donc, ce que vous souhaitez à votre fils, c'est quoi? Puisse-t-il être heureux, s'épanouir dans l'existence? Puissent les obstacles lui être épargnés? Un amour inconditionnel, d'accord?
Oui.
Donc, vous prenez cet exemple envers quelqu'un pour qui c'est facile, plutôt que la personne avec qui vous disputez, sa maman ou autre chose. Pour commencer. Ensuite, vous laissez ça envahir votre esprit.
Envahir l'esprit, ça veut dire
c'est-à-dire
quoi?
Que
ça
vous,
veut dire
que vous...
Je mets des mots dessus.
Par d'abord, c'est les mots. Puisse-t-il être heureux, puisse-t-il être heureux. Mais en même temps, il y a une saveur, un ressenti.
D'accord.
L'amour, c'est pas simplement des paroles, des gestes physiques.
Oui.
C'est vous êtes plein d'amour vis-à-vis de quelqu'un. Quand même, on sait ce que c'est.
D'accord.
Se ressentir de l'amour, je dirais, bienveillant, pas de l'amour passion, romantique, etc. C'est un sentiment chaleureux. Ça me met de la chaleur au cœur. Il y a quelque chose, il y a un ressenti, un vécu.
Et je me concentre sur ce ressenti, c'est
oui,
ça?
Oui, parce que si vous vous imaginez la haine à la place, ce n'est pas du tout la même expérience. C'est une expérience. Donc il y a cette qualité que mon état d'esprit est un état d'esprit d'amour vis-à-vis de cet enfant.
Donc est-ce qu'on peut dire que la méditation, c'est quelque chose d'agréable?
Une émotion positive comme la bienveillance, c'est quelque chose qui est en harmonie avec ce qu'on pourrait appeler notre nature profonde. On se sent bien, disons.
Oui.
On sent que c'est juste. On aimerait que ça dure.
Oui.
Et du coup, en le nourrissant, on aimerait que ça s'amplifie. Donc vous avez ce sentiment par rapport à votre enfant que vous aimez beaucoup. Ensuite, au lieu que ça soit juste 10 secondes, ce qui arrive souvent, puis après on est distrait, on fait autre chose.
Par notre pensée, oui.
Voilà, donc là, vous essayez de le cultiver pendant 10 minutes, 15 minutes. Si vous êtes distrait, vous y revenez, vous le faites renaître de nouveau. Vous le ravivez, il y a plus de couleurs, d'intensité, de présence. Donc c'est ce qui s'appelle maintenir pendant 10 minutes, ce qu'on ne fait jamais d'habitude. Vous faites des gammes de batterie, mais vous ne méditez pas sur l'amour pendant 15 minutes. Et si vous le faites, ça aura le même résultat que de faire des exercices de batterie. Au début, c'est comme de faire du vélo. Ça peut sembler difficile et on fait des efforts et on y arrive mal. Et à un moment donné, on le fait bien sans effort. Quand on fait bien du vélo, on lâche les mains, on peut même regarder dans le ciel en sifflant. Vous n'allez pas tomber.
Là, vous pouvez méditer dans le métro.
Oui, on peut. Oui, oui, bien sûr. Mais méditer, ce n'est pas se sortir de l'environnement pour aller méditer dans sa tête. Et à un moment donné, on doit effectivement, sans faire des efforts, « Ouais, il faut que je médite, je suis dans le métro. » Que naturellement, vous restez dans cet état de présence ouverte sans faire d'efforts. Donc à un moment donné, méditation et non-méditation se mêlent. C'est une sorte de manière d'être qui fait que vous n'êtes pas emporté par les pensées errantes, etc. Mais sans vous bloquer, c'est pas un truc artificiel. Pas que je sois distrait, attention, pas que j'ai de la colère. C'est naturel. Ça s'acquiert, ça se cultive. Et le mot sanskrit pour la méditation bhavana veut dire cultiver. Bon, avec donc, ça, vous êtes bien parti.
Est-ce qu'on peut cultiver cette bienveillance en méditant sur des personnes qui nous font du mal,
oui,
mais dont on sait qu'elles souffrent elles-mêmes?
Voilà, bah on commence donc par votre fils, parce que c'est le plus facile, parce que sinon, c'est trop demandé.
Oui.
Ensuite, quand vous avez suffisamment de coffres, je voudrais dire, dans la bienveillance, cette pauvre personne, elle est malheureuse, elle est profondément maladroite, parce qu'elle n'arrête pas d'en remettre pour des choses qui lui font mal et qui font mal aux autres. Oh, la pauvre, franchement, qu'est-ce que je peux souhaiter au fond de mon cœur? Qu'elle aille mieux, qu'elle comprenne tout doucement. Je ne vais pas la forcer, mais si je pouvais, d'une façon ou d'une autre, directement, indirectement, contribuer à ce que ça se passe mieux, favoriser ça. Ah, j'espère que franchement, elle ira mieux. Ben ça, c'est de la bienveillance, c'est pas bisounours, c'est ce qu'il y a de plus pragmatique en plus pour résoudre des conflits.
Oui.
Et ça, ça se cultive aussi. C'est une attitude. Pour moi, l'amour et l'altruisme, c'est de n'exclure personne de son cœur. Donc on peut aussi voir sur le long terme, parce que c'est toujours... On vous dit, oui, qu'est-ce que la méditation peut faire? Il y a un feu de forêt, tout. Attendez, c'est au moment de l'étincelle qu'il faut agir. Donc c'est au moment de la société, de l'enfance, de l'éducation.
Oui. Oui.
C'est pas quand tout est en feu qu'on dit, bah ouais, la méditation, elle ne sert pas à grand-chose. Hein. Ben, c'est trop facile.
Alors, si je résume ce que vous venez de me dire, la méditation, ça sert pour nous-mêmes à réagir constructivement face à des gens qui nous agressent, mais ce n'est pas ça qui va faire changer les agresseurs.
Si on a l'occasion de passer suffisamment de temps avec eux, ce n'est pas impossible qu'on puisse faire quelque chose.
D'accord.
Okay. Au contact des gens, en les connaissant, si Poutine avait un ami... qu'ils le prennent à part et peu à peu en qui il ait confiance. C'est pas inimaginable. On a vu des gens dans des prisons qui avaient commis des meurtres multiples, qui ont complètement viré leur cutie. Moi, j'ai eu beaucoup de cas de gens qui étaient des leaders de gangs à Los Angeles et qui, après être en prison, ont totalement fait une espèce de tournant intérieur. Il y en a qui disaient, c'est comme si un mur s'écroulait. Je ressentais que de la haine. Et brusquement, je me suis dit, mais il faut que j'aide tous ces jeunes. Et quand il a été libéré, il a passé sa vie à essayer d'aider les jeunes à ne pas tomber dans la délinquance. Ouais. Donc ça peut se faire, ça arrive, pas toujours, pas automatiquement. Mais on peut souhaiter ça.
Bon, il faudrait que vous...
C'est mieux que ce type-là sorte et aide des jeunes à ne pas devenir des délinquants que de le condamner à mort et l'envoyer sur la chaise électrique.
Donc il faudrait vous coller dans les pattes de Poutine pendant un mois.
Voilà, je le prends en charge.
Vous allez le prendre en charge. Mais au fait, ça fait un moment qu'on parle. Je me sens beaucoup mieux.
Bah écoutez, merci. Je vous souhaite plein de bonnes choses.
Mais on ne s'est même pas présenté. Moi, c'est Jean-Baptiste. Et vous, c'est quoi votre nom?
Moi, c'est, pour les intimes, c'est Moula Gaufre.
Moula Gaufre.
Oui, c'est mon copain qui m'a pris la photo. André Fatra, il m'appelait Moula Gaufre. Donc, c'est Moula Gaufre. Puis ma maman m'appelle le Poulot. Donc, c'est Moula Gaufre, dit le Poulot.
Et à part Moula Gaufre,
vous avez... Il y en a qui m'appellent Mathieu. Et puis, vous voyez là, le machin dans le bistrot, là, Ricard, oui. Le pastiste. Ben voilà.
Mathieu Ricard.
Pour vous servir.
Très bien.
Non mais je te jure, ce genre, c'est un vieux con ce mec.
Ouais, bah le vieux con, il supporte pas les poufias dans ton genre, ok? Alors pour la dernière fois, tu coupes ton portable et t'apprends à vivre en société.
J'aurais jamais dû réagir comme ça. Peut-être qu'à l'heure qu'il est, elle pleure de désespoir sur son lit à cause d'un patron qui la harcèle.
C'est toi qui fais chier tout le monde là.
Allez, allez, c'est qu'une pièce de théâtre. Il faut que je me dise que je ne suis pas affecté. Qu'est-ce que je peux lui souhaiter? De ne plus subir ce tyran de patron qui la harcèle.
Casse-toi, molosse.
Ressentir de l'amour, je dirais, bienveillant, ça me met de la chaleur au cœur.
Allez, empathie, altruisme.
Nous sommes tous le jouet...
Elle n'est que le jouet de ses poisons mentaux. Puisse-t-elle retrouver un boulot qui lui plaît?
Connard, va.
J'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais parce que je peux pas la porter dans mon cœur, celle-là.
Pour moi, l'amour et l'altruisme, c'est de n'exclure personne de son cœur.
Les jours passent, les semaines et les mois. Plus d'un an s'est écoulé depuis que j'ai décidé de retrouver une partie de mes racines. Penzance, c'est pourtant pas loin, géographiquement. Mais la distance, elle n'est pas uniquement géographique. Elle est aussi dans le cœur, dans les souvenirs. Remonter le temps, c'est pas donné comme ça. Ça se désire, ça se rêve, ça se fantasme, ça se prépare, bref, ça se mérite. J'ai toujours pensé que grandir, c'est redevenir enfant. Elle est longue, la route qui mène à l'enfance. On n'est plus obligé de se confiner, bon, c'est déjà ça. Tantôt, on nous permet d'enlever les masques. Tantôt, on nous oblige à les porter de nouveau. C'est selon, en fonction des besoins des dirigeants. Par exemple, au moment des élections, on nous dit « Tout va bien, on peut sortir sans danger ». Eh oui, ce virus, il est bien élevé. Il a la décence de rester dans son coin quand il faut élire celles et ceux qui vont nous diriger. C'est comme le nuage de Tchernobyl qui s'était sagement arrêté aux frontières de notre pays. Et puis, les élections passées, le virus redevient très méchant. Achetez nos masques, achetez nos gels hydroalcooliques. Une chose me fait garder espoir. Mon retour en Cornouailles. Tous les jours, c'est le rituel. J'appelle Eurostar, avec l'espoir qu'ils remettent leur train en service. Mais les jours passent, les mois, les années. Quelquefois, je perds espoir, mais ce rituel me fait tenir.
Eurostar, bonjour. En raison des restrictions sanitaires, aucun train ne circule jusqu'à nouvel ordre. Pour plus d'informations, merci de consulter notre site internet. Jusqu'à nouvel ordre. Pour plus d'informations, merci de consulter notre site internet.